du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence à Montauban, 93.3.
Et qu'il est bon de se retrouver entre 12h et 13h pour ce Présence Midi. Malheureusement, aujourd'hui, c'est une triste nouvelle. Nous avons appris le décès d'un peintre local, mais qui avait une réputation nationale. Il s'appelait Christophe Riella, on l'appelait Tito. Il était venu il y a quelques années, quelques semaines aussi, puisqu'il venait régulièrement sur Radio Présence nous dire un petit coucou. Christophe Riella s'est éteint hier et on voulait lui rendre hommage à travers une interview que nous avions fait il y a quelques années, suite à la sortie d'un livre qui lui était consacré et qui était écrit par Philippe Irigoyen. Vous entendrez donc cette interview pour lui rendre hommage. Et puis, un jour, un livre, un auteur, eh bien, cette semaine, Filoni Diego Rabal. Vous savez que pendant l'été, on repasse les chroniques que nous avons faites sur la saison dernière. Eh bien, aujourd'hui, nous partirons sur Bagnères de Bigorre, découvrir une très belle librairie. Et oui, les librairies sont en danger. Beaucoup sont en train de fermer en France. Eh bien, il faut mettre à l'honneur, bien sûr, celles qui restent ouvertes. Et donc, celle de Bagnères est un exemple à suivre. Vous le découvrirez d'ici quelques instants. Mais pour l'heure, un petit point sur l'actualité. Et on retrouve pour cela Clémence Roux, étudiante à l'école de journalisme de Toulouse, pour l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. Bonjour Clémence.
Bonjour à tous. En Haute-Garonne, un nouvel incendie s'est déclaré après la chute d'une ligne électrique. Une dizaine d'hectares de végétation ont brûlé et les pompiers ont été mobilisés. Toujours dans le département, à Saint-Lys, les analyses se veulent rassurantes après l'incendie d'un dépôt de ferraille. Les niveaux de toxicité n'ont pas dépassé les seuils de dangerosité. De l'autre côté des Pyrénées, une centaine de pompiers français sont venus aider leurs collègues espagnols face à un important incendie en Aragon. Et dans le Tarn-et-Garonne, attention aux cyanobactéries dans certains lieux de baignade. Avec les fortes chaleurs, elles peuvent se développer et provoquer des irritations ou des troubles digestifs. Dans le Tarn, au moins 11 Français risquent jusqu'à 10 ans de prison en Thaïlande dans le cadre d'une affaire judiciaire. Et enfin, en Ariège, l'utilisation de balles en caoutchouc pour éloigner un jeune ours continue de diviser les associations de protection animale. Voilà pour les titres de l'actualité. Belle journée sur Radio Présence.
Un grand merci à vous Clémence. Clémence qu'on retrouvera d'ici quelques minutes à 12h30 pour le journal de la mi-journée. D'ici quelques instants, donc je vous dis, on rendra hommage à un grand monsieur de la peinture. Il était peintre ici chez nous, mais il avait une réputation au niveau national. Il a fait les plus belles galeries de France. Eh bien, on lui rend hommage aujourd'hui puisqu'il était venu il y a quelques mois maintenant sur les micros de Radio Présence à la sortie d'un livre qui avait été écrit par Philippe Irigoyen.
Radio Présence à Bagnères-de-Luchon, 94 FM.
Le samedi, quand on a oublié l'heure, que le métro a cessé son va-et-vient, sans nous presser en marchant vers ta demeure. On est heureux avec des riens. Chaque 10 pas sous une porte cochère, on se blottit et nos deux corps n'en font qu'un. Loin du regard malicieux des réverbères, on est heureux avec des riens. Le jour qui cherche à se lever nous dit: allez, reprenez votre chemin, On a mis juste un instant, évidemment, pour s'arrêter un peu plus loin. Notre parcours est semé de fantaisies, de rires clairs s'élançant vers le matin. Rien ne nous sert de nous compliquer la vie. On est heureux avec des riens. Tout en marchant, si par hasard je fredonne, ta voix se mêle à ma voix pour le refrain, rythmé par le bruit de nos pas qui résonnent. On est heureux avec des riens. Nous jouons à nous rencontrer et pour flirter. C'est une occasion rêvée. Pour ce j'appelle à mon secours les mots d'amour que j'avais dit le premier jour. Mais lentement nous arrivons de la sorte, dans ton quartier, dans ta rue, et c'est la fin. Faut ce qu'il faut quelque part, et c'est ta porte. Ta main se crispe dans ma main. Nous restons là frissonnant de tout notre être. Quelques instants que l'on vole au lendemain, puis regardons tristement vers la fenêtre où tes parents veillent sans fin. On se donne un dernier baiser et puis ça y est, jusqu'à samedi prochain. Une voix dit dans mon cœur lourd, encore 8 jours pour être heureux avec des riens. Mais quand j'aurai trouvé un meublé pour te garder, j'irai demander ta main, et avec une augmentation de mon patron, nous serons heureux.
Radio Présence dans le Luchonnais, 94 FM.
C'est une triste nouvelle que vous allez nous apprendre, Philippe Irigoyen, bonjour.
Oui, bonjour Philippe.
C'est une triste nouvelle, je disais, parce que c'est une figure locale, un peintre reconnu au niveau national, Tito, Christophe Rielland, dit Tito, est décédé.
Oui, c'est ça, il est décédé hier. Voilà, donc il y avait trois mois qu'il était donc entre l'hôpital et ce qu'on appelle le V60 au centre de gériatrie ou de convalescence, la Bastide. Voilà, donc mais le pauvre, c'est vrai qu'il lui tardait de partir parce que là, ça fait 2 mois qu'il mangeait plus rien. Et vraiment, tous les jours, il disait quand est-ce que je pars.
Et vous l'avez accompagné jusqu'au bout, vous avez une amitié vraiment incroyable pour lui, puisque vous avez même écrit un livre.
Oui, c'est ça. Oui, bon, c'est vrai que déjà, du temps de sa femme Nadette, donc, est décédée il y a 6 ans, dont déjà nous étions amis depuis pas mal d'années, et quand sa femme est décédée, lui qui était habitué uniquement à peindre seulement, il s'occupait d'aucun papier, de la gestion du ménage, de rien. Voilà, il s'est senti perdu et il m'avait demandé il y a 6 ans, surtout tu ne m'abandonnes pas, parce que dès que je reçois une lettre, un papier, moi je suis mort de peur. Et donc à ce moment-là, j'ai dit oui, je t'accompagnerai, je t'aiderai. Donc ça fait 6 ans que je l'ai accompagné. Et vraiment, ça a été un plaisir parce que c'est vrai que c'est un homme toujours positif, toujours de bonne humeur, était vraiment extraordinaire.
Et puis une figure locale, puisqu'il a été dans des grandes galeries.
À un moment donné, il était dans une douzaine de galeries dans toute la France. Et c'est vrai qu'il vendait entre 30 et 40 tableaux, je crois, dans le mois. Et bon, à un moment donné, il a dû arrêter parce qu'il n'en pouvait plus et c'était trop. Mais c'est vrai que non, il a été vendu dans chez Drouot et dans aux enchères un peu partout. Et non, vraiment, il était très apprécié. Oui.
Ben écoutez, Philippe Irigoyen, il s'est éteint, il avait quel âge?
La 94, d'ailleurs. On lui a fait une petite, bon, toute petite fête, justement, là, au V60, en haut, parce qu'il les a, il tenait le 4 juin. Et il y était déjà, donc je lui avais acheté un gâteau, un pétillant sans alcool, et puis le chiffre 94 en bougie. Et avec les infirmières, là, on lui a chanté joyeux anniversaire. Et bon, il a été très surpris, puis il était vraiment très, très content, quoi. Donc, bon, on lui a fait déjà ce plaisir aussi avant de partir. Et puis moi, je l'ai vu, je montais tous les deux jours, et donc je l'ai vu la veille de sa mort, avant-hier, donc. Et bon, il n'arrivait plus à parler ou juste chuchoter. Et là, avec la main vers le bas, quoi, il m'a montré, il m'a fait voir que bon, il était arrivé au fond, quoi.
Ouais. Voilà. Eh bien, écoutez, Philippe Ruguin, moi, ce que je vous propose, parce que on a passé des bons moments, il est venu plusieurs fois ici à la radio, vous nous l'aviez amené, et il exposait aussi encore dans sa commune, à côté de Lourdes. Il aimait bien exposer ses toiles. Pour lui rendre hommage, j'aimerais faire écouter cette émission que nous avions fait ensemble, suite donc au livre que vous avez écrit sur lui.
Oui, pas de problème. D'ailleurs, j'avais prévu de lui faire organiser une exposition. D'ailleurs, les dates étaient retenues à la mairie et au Palais des Congrès, là, au mois de septembre. Et puis, bon, après est arrivé ce qui est arrivé. Il est tombé vraiment malade et là, donc, j'avais annulé. Mais c'est vrai que j'avais dit, bon, écoute, je te fais une dernière exposition. Bon, ça n'avait pu se faire, malheureusement, Ça, quand même, je l'en avais organisé deux il y a 3 ou 4 ans, je crois, deux en suivant aussi. Donc, c'est à ces occasions-là. Et avec le livre aussi que nous sommes venus chez vous pour enregistrer des petits reportages et des interviews très sympathiques.
Eh bien, écoutez, moi, ce que je vous propose pour lui rendre hommage et découvrir aussi ce personnage qui était Tito, eh bien, d'entendre, ou peut-être pour certains, réentendre donc cette interview que nous avions fait avec lui sur votre livre.
Voilà, un grand merci à vous,
Philippe Irigoyen. Je sais que vous devez être très triste puisque vous avez perdu presque un frère.
Oui. Moi, j'étais comme quelqu'un de la famille. Il m'a même dit, là, il était sur son lit d'hôpital. Il m'a dit, tu sais, la seule personne que je regretterai, bon, je vais pas me jeter des fleurs, mais c'est toi. Puis après, c'est surtout la suite. Il me dit, même là, quand j'arriverai là-haut, je parlerai de toi. Alors je lui dis, écoute Tito, attends un peu, je ne suis pas pressé.
Bon, voilà, il avait un humour et une gentillesse absolument incroyable. Et Radio Présence voulait lui rendre hommage à travers donc cette émission que nous avions enregistrée. Bon courage à vous, Philippe Irigoyen. Merci pour ces quelques mots.
Merci beaucoup, Philippe. Au revoir.
Au revoir. C'est avec un grand plaisir que je vous reçois aujourd'hui, Philippe Irigoyen, bonjour.
Bonjour.
Ça fait la troisième fois que vous venez, c'est votre troisième bébé que j'ai entre les mains. C'est un livre, un nouveau livre, on en avait déjà évoqué les deux premiers.
Effectivement.
On a parlé un peu de votre famille, du Pays Basque et de tous les gens qui étaient partis en exil.
Voilà, le premier c'était Hippolyte Irigoyen, un président basque, donc un peu l'histoire de ce président, deux fois président en Argentine, avec toute la généalogie du Pays Basque et tout ça. Et le second, c'était mon histoire, un peu compliquée, un peu voilà, l'histoire familiale.
Voilà, et qui d'ailleurs m'avait particulièrement touché, parce que voilà, on connaît des gens, et puis après, on a été rentré un peu dans votre intimité, dans votre vie, et c'était très beau.
Il a eu un petit succès quand même, bon, c'est plus au Pays Basque ici, mais enfin ici aussi, donc il a beaucoup plu, effectivement, oui.
Alors aujourd'hui, vous n'êtes pas venu tout seul, puisque le livre que vous avez, votre troisième livre, est consacré entièrement à un monsieur qui s'appelle Christophe Rielang, surnommé Tito, qui est avec nous. Et le titre de ce livre s'appelle « Peintre connu et reconnu ». On va prendre le temps ce matin de Philippe Irigoyen de présenter la personne qui vous a demandé beaucoup de travail et qui est à côté de nous. Bonjour Christophe Rielang.
Bonjour monsieur.
Alors vous préférez qu'on vous appelle Tito, donc on va vous appeler Tito pendant l'interview.
Je suis plus connu sur le nom Tito que de Christophe. à l'école c'était Christophe, mais après c'est devenu Tito, et puis tout le monde en ville c'est « Adieu Tito
!» Voilà, donc ce sera Tito.
Je préfère même le nom de Tito que Christophe, maintenant. Je suis tellement habitué à entendre...
Philippe Irigoyen, qu'est-ce qui vous a pris d'écrire un livre sur ce peintre lourdé, Christophe Rielang, et puis on demandera la réaction à Tito de savoir qu'est-ce que ça lui a fait, lui, de fait que quelqu'un écrive un livre sur sa vie.
Oui, voilà, donc ça fait 10 ans que nous nous connaissons à travers Courbes et couleurs de Lourdes.
Qui est une association.
Une association de peinture. Mm-hmm. Et donc chaque fois qu'on le rencontre, que ce soit moi ou d'autres, il a toujours des anecdotes assez marrantes à raconter. Et sur sa vie, sur voilà un peu sa jeunesse, et donc c'est ce qui m'a donné à force de la raconter. J'ai dit mais un jour, il y a pas longtemps, tout en lui faisant sa généalogie, puisque vous savez que je suis passionné aussi de ça, et donc bon, et sur le rab, aussi bien Nadette, son épouse, que lui est un peu bloqué, donc voilà, je les aidais un peu à retrouver leurs racines. Et là, pareil, des anecdotes encore et encore et encore. Alors je lui ai dit, écoute, Tito, bon, j'ai écrit de petits livres, bon, sans prétention, mais voilà, moi j'aimerais écrire un livre sur toi et raconter un peu ta vie, toutes ces anecdotes et ta vie, parce que bon, tu es connu en tant que peintre, puisque bon, tu as eu quand même un succès dans toute la France, entre toutes les galeries que tu as exposé, mais moi j'aime bien connaître entre guillemets et affectueusement le bonhomme qui est derrière. Et donc c'est comme ça que l'aventure a démarré, et donc je suis allé chez lui 5 ou 6 après-midi pour l'interviewer, et donc voilà, après retranscrire tout ça et transformer en un petit livre, voilà, avec tout ce...
Plus d'une centaine de pages.
Oui, à 130 pages, avec pas mal de photos, tout ça, de sa jeunesse, de tout ce qu'il a fait pendant sa jeunesse ici avec Chantal
Montagnard. C'est-à-dire, au départ, j'étais pas trop chaud, comme on dit. Mais voilà. Après, voyant comment ça tournait, je me suis dit, oh là là, mais c'est pas mal ce que tu fais là. Il a du talent en plus, il faut le reconnaître. Alors j'ai dit, bon ben, vas-y, va, attaque.
Ça vous a fait drôle quand même, quand vous propose d'écrire un livre sur votre, sur votre vie.
Vous savez, jamais on s'est intéressé. Si on s'est intéressé à mes peintures, tout ça, un petit succès, mais jamais écrire un livre sur moi, mais malheureusement, le ciel me tombe sur la tête.
Parlons du peintre, Philippe Périgoyen, pour les gens qui ne connaîtraient pas Christophe Riellan. Tito, vous dites que c'est un peintre connu, alors racontez-nous.
Ah oui.
Oui, il pourra mieux raconter lui, mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand il était à Loueil, parce que bon, il a transité de Lourdes à Lugagnan, de Lugagnan à Loueil, Loueil-Florence, Florence-Les Sables-d'Olonne, mais surtout quand il était à Loueil, il était, je crois, dans 12 galeries dans toute la France. Ah, il a même signé, c'est dans le livre, des autographes au Carré d'Or à Paris, en présence de Michel Morgan, de Tony Curtis, en fait, tout le
quota de... Du milieu artistique, quoi. Voilà. J'ai fait des jolies expositions un peu dans toute la France.
Voilà, il a fait toute la Côte d'Azur, il a fait toute la Bretagne.
La Bretagne, du côté de Morbihan, tout ça.
Comment on peut définir sa peinture, hein?
Figuratif.
Figuratif.
Romantique, il y en a qui mettent, les journalistes. Romantique. Oh, j'ai rien inventé, j'ai pas fait des trucs. Mais enfin, ça plaît.
Impressionnisme aussi, impressionniste.
Impressionniste, oui.
Voilà. Il fait des natures mortes et des...
Ah, un peu de tout.
Des paysages, je vois aussi, des paysages.
Des paysages, des marines.
Des montagnes.
Voilà, impressionniste.
Il n'y a que dans le portrait. Le portrait, enfin, je m'y suis essayé, parce que j'avais fait les Beaux-Arts à Toulouse, et j'étais avec un nommé Bergougnan, professeur de dessin, et son fils avait joué au rugby, le grand Bergougnan de l'époque de Jeannot Prat, tout ça là.
Oui.
Et bien son père nous donnait des leçons de peinture à Toulouse, aux Beaux-Arts. Et alors là, j'ai commencé à apprendre avec eux, quoi. Les bases du dessin, là, puis après je suis parti un peu plus avec M. Cambon, avec Méjolat, François.
Oui,
on a fait des tournées ensemble, enfin on a peint ensemble en plein air avec Méjolat, mais M. Cambon aussi. Hein.
Vous êtes né le 4 juin 1932.
Oui.
On écrit un livre sur vous. Philippe Périgoyen vous propose cette belle aventure. Ça a démarré par l'histoire, puisque vous m'avez dit en préparant cet entretien que vous avez même découvert des choses que vous n'ignorez. C'est Philippe Périgoyen qui vous l'a...
Exactement. Surtout sur ma famille. Parce qu'au Sables-d'Olonne, et j'avais un grand-père qui a été un sauveur sur mer, enfin, il avait inventé un bateau, je sais pas quoi. Enfin,
oui, un équipement, je crois, pour les sauvetages et tout ça.
D'accord.
Il y a un gros article.
Il avait même été décoré par un truc de, je sais pas.
Oh, il avait plein de décorations, tout ça, oui, au Sables-d'Olonne.
Oh, il avait plein de décorations. Il y avait même une rue à lui.
Et donc, il vous a fait découvrir des choses dont vous ignoriez.
Oui, que j'ai découvert, parce que, étant gosse, j'étais un peu abandonné par ma mère. Mon père a divorcé, enfin, ils ont divorcé les parents, et moi, je me suis retrouvé avec ma marâtre, que j'appelais Marie, mais qui a été, pour moi, ça a été pire que ma mère. Et j'étais pourri gâté avec elle. Ah oui, je levais le petit voix, maman, et papa, je l'appelais maman, d'ailleurs. Et alors, c'était une femme extraordinaire. Mmh. Ah oui, ah oui, oui. Terrible, terrible. Elle faisait les saisons à Lourdes. Et moi, je travaillais chez Fontan, le peintre.
Un bâtiment, là.
D'accord, avant d'être artiste peintre, il a été peintre en bâtiment. Il s'est essayé sur les murs, comme ça, de gens, et après, il s'est dit, tiens, c'est vrai.
Alors, Philippe Irigoyen, quand vous avez présenté ce projet, hein, d'écrire un livre sur Tito, ben, il est marié, c'est une histoire de couple. Sa femme, elle était plus emballée que lui. Hein,
complètement, complètement. Oui, lui, bon, elle avait compris au premier coup, elle avait compris ce que je voulais faire. Tito, ben, lui, il pensait que j'allais parler plutôt de sa peinture, la manière. Alors, je lui dis, non, moi, en peinture, voilà, oui, je veux dire, ça c'est joli, ça j'aime pas, mais après pour l'étape technique, enfin moi je n'y connais pas.
Oui, parce qu'en général, quand j'ai des interviews avec les journalistes, ils me parlent surtout de ma peinture, de mes expositions, tout ça. Et alors jamais de ma famille, les trucs. C'est pour ça que je ne voulais pas trop rentrer dans cette intimité de.
Et là, c'est fichu, tout le monde va tout savoir là.
Mais alors lui, il a tellement bien travaillé son truc, j'ai dit vas-y, va, allez, continue.
Vous êtes parti de son enfance jusqu'à aujourd'hui ?
Oui, oui, voilà, voilà. D'ailleurs, dans le livre, j'ai mis même un petit bout de généalogie, oui. Voilà, aussi bien lui que son épouse Nadette, qui est donc de Gers, ici, à côté de Lourdes, et de la famille Noguès. Et donc, voilà, j'ai mis un peu son histoire aussi, parce qu'elle a une histoire, une enfance pas banale non plus. Donc, voilà, elle a accepté aussi que je mette un petit passage sur elle, sans aucun problème. Donc voilà, là, les gens la découvriront, elle aussi, en même temps que son mari Tito. Voilà.
Alors, je me tourne vers l'auteur, hein, celui qui a écrit ce livre, Philippe Irigoyen. Dans tout livre, il y a un projet, il y a une idée qui est née. Il y a tout ce travail de recherche que vous avez fait, ces interviews. Et puis, il y a l'écriture. Et puis, il y a l'impression. Et quand vous avez tenu ce livre dans la main, ça vous a fait quoi ?
Oui, bon, maintenant, comme c'est mon troisième bébé, donc, bon,
c'est
déjà
passé,
le premier. C'est surtout le premier qui m'avait fait beaucoup d'effets. C'est-à-dire, quand j'ai vu mon premier livre, parce que je m'attendais pas du tout, quand j'ai pris ma retraite, puisque c'est là que j'ai commencé toutes ces petites activités, voilà, d'écriture, je ne pensais pas du tout arriver au bout de l'écriture d'un bouquin. Et alors, quand j'ai vu le premier, donc c'était Hippolyte Rayon, le président basque, quand j'ai vu le premier livre, le bon à tirer que l'imprimeur donne, et que j'ai vu Philippe Irigoyen, auteur, je me suis presque assis là pour fermer les yeux et me dire, bon, c'est vrai que t'as écrit un livre. Voilà, non, ça fait une drôle d'impression. Bon, maintenant, je vais pas dire que j'ai pris l'habitude. Non, ça peut pas être au bout du troisième. Puis bon, je suis pas un écrivain. Voilà, comme on l'entend habituellement de profession. Mais non, ça fait toujours plaisir, d'avoir la matière entre les mains.
C'est une. Ben, vous êtes lourdais, hein, Tito. Voilà, vous êtes un emblème de cette.
Attendez, je suis lourdais. Je suis né au Sable d'Olonne, mais je suis arrivé à 2 ans.
Oui.
Alors,
donc vous êtes.
Je parle même pas toi. Alors. Quand j'étais au Château Montagnard, on chantait Montagnard, et puis même il y avait des vieux maintenant qui sont décédés, les pauvres. Mais ils parlaient beaucoup pas toi.
Oui.
Alors ça fait que je me suis averti, puis finalement, à fond, dans les chantiers, c'était pareil.
Vous avez toujours après vécu sur Lourdes. Enfin, vous avez un peu voyagé l'Ouaille.
Après, il est parti sur un an à Florence et puis 10 ans
dans le Gers. Florence dans le Gers.
Oui, voilà.
Et j'ai fait Florence aussi dans le Gers.
Voilà. Et après, tu es parti 10 ans au Sable d'Olonne.
Sable d'Olonne, oui.
Et
oui,
puis
oui,
là, il y a 10 ans que tu es revenu sur Lourdes.
À Tarbes. Finalement, je suis revenu à Lourdes.
Je lis la quatrième de couverture, si vous le permettez, Philippe Irigoyen, parce que la quatrième de couverture est toujours très importante dans un livre. Biographie, souvenirs et confidences. Sa modestie n'a égal que son talent, et du talent, Christophe Rielland en a à revendre. C'est joli ça, déjà, Christophe.
C'est formidable.
Des Sables d'Olonne à Lourdes, sa vie n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Mais il a pu assouvir la passion de sa vie jusqu'au bout, la peinture, hein, que vous conservez encore puisque vous donnez des cours.
Exactement.
Même si maintenant son activité d'artiste peintre professionnel s'est ralentie et sa boulimie s'est assagie, il continue à pratiquer son art de prédilection, plus pour son plaisir personnel que pour la rentabilité. Ben oui, parce que là aujourd'hui, vous êtes à la retraite quelque part.
Exactement.
Vous remarquez, à 80, il était temps, à 80, 85 ans, il était temps que...
Mais c'est-à-dire, tant que je ne tremble pas,
ça continue.
Je peux tenir le pinceau, je continue.
Ces quelques pages vous relatent la vie de Christophe dit Tito Rielan, depuis sa naissance, avec plein d'anecdotes, ses rencontres, ses joies et quelques peines, mais surtout son enthousiasme et son humilité, malgré son succès et sa renommée. C'est joli, ça.
Oui, j'ai même écrit à l'acrostiche au début, là... Qui voilà, simple, mais enfin...
Quand je vous dis qu'il écrit bien, eh?
C'est un livre vraiment que ben, je conseille hein, pour les gens qui sont amoureux de la peinture et puis amoureux de ces personnages hors normes qu'on a la chance d'avoir ici des fois tout à côté. Parce que c'est une belle vie et une vie lorsqu'on regarde les photos. Ben, pour les anciens, ils vont revoir certaines photos d'un vieux lourd, d'un vieux passé qui est très intéressant. On voit Tito à partir à droite là où vous avez fait du vélo.
Oui.
On voit avec les chanteurs montagnards.
Il a fait du théâtre. Il a fait les concours de voix d'or. Dans la région, Midi-Pyrénées. Ah oui, c'est un artiste au grand sens large du mot.
Voilà, avec artiste.
Arrêtons.
Voilà, cet hommage que Radio Présence voulait rendre à Tito Rielan, Christophe Rielan, dit Tito, qui donc, vous l'avez entendu, est décédé en début de cet entretien, est décédé hier. Voilà, un personnage, un vrai gentil. Et nous voulions lui rendre cet hommage et réentendre une dernière fois sa voix.
Elle était maquillée comme une star de ciné, accoudée au jukebox. Elle rêvait qu'elle posait juste pour un bout d'essai à la Century Fox. Elle semblait bien dans sa peau, ses yeux couleur mentalot cherchent du regard un spot de Dieu projecteur. Et moi je n'en pouvais plus, bien sûr elle ne m'a pas vu, perdu dans sa mégalo, moi j'étais de trop. Elle marchait comme un chat qui méprise sa proie en frôlant le flipper. La chanson qui couvrait tous les mots qu'elle mimait semblait briser son cœur. Le charme est tombé, arrêtant le flipper. Ses yeux noirs ont lancé de l'agressivité sur le pauvre jukebox.
Michel.
Présence à Auch 89.6.
Allez, tout de suite, à 12h passé de 30 minutes, on retrouve l'essentiel, le journal de la mi-journée, pardon, avec Clémence Roux, étudiante à l'école de journalisme de Toulouse. Rebonjour Clémence.
Bonjour à tous. Dans l'actualité régionale, un nouvel incendie a touché la Haute-Garonne. Le feu s'est déclaré après la chute d'une ligne électrique. Au total, une dizaine d'hectares de végétation sont partis en fumée. Les pompiers ont été mobilisés pour maîtriser les flammes et éviter qu'elles ne se propagent davantage. Après plusieurs départs de feu ces derniers jours, la vigilance reste importante dans le département, notamment avec des sols particulièrement secs. Toujours en Haute-Garonne, les nouvelles sont plutôt rassurantes à Saint-Lys. Après l'incendie d'un dépôt de ferraille, le feu avait provoqué un important panache de fumée, visible à plusieurs kilomètres, et suscité des inquiétudes chez les habitants. Des contrôles ont donc été réalisés autour du site. Les niveaux de toxicité relevés n'ont pas dépassé les seuils considérés comme dangereux. Et les incendies mobilisent aussi les secours de l'autre côté des Pyrénées. En Aragon, une centaine de pompiers français sont venus prêter main forte à leurs collègues espagnols face à un feu de grande ampleur. Ils ont participé à la lutte contre les flammes et à la protection des secteurs menacés. Une coopération entre les deux pays alors que les fortes chaleurs et la sécheresse favorisent les incendies cet été. Autre information dans le Tarn-et-Garonne avec un appel à la prudence pour les baigneurs. Les températures élevées favorisent la présence de cyanobactéries dans certains points d'eau. Elles peuvent provoquer des irritations de la peau, mais aussi de la fièvre ou des troubles digestifs. Avant de se baigner, il est donc recommandé de vérifier les informations affichées sur place et de respecter les éventuelles interdictions. Dans le Tarn, plusieurs Français sont actuellement impliqués dans une affaire judiciaire en Thaïlande. Au moins 11 d'entre eux risquent jusqu'à 10 ans de prison. Ils avaient accepté un voyage présenté comme entièrement payé avant de se retrouver au cœur de cette affaire. Les autorités thaïlandaises cherchent maintenant à déterminer le rôle et la responsabilité de chacun. Et enfin, en Ariège, le dispositif mis en place autour d'un jeune ours continue de faire débat. Après une charge contre un éleveur, les autorités ont autorisé l'utilisation de balles en caoutchouc pour effrayer l'animal. L'objectif est de lui faire retrouver la peur de l'être humain et de l'inciter à rester à distance. Une méthode qui divise aujourd'hui les associations de protection animale. Voilà, fin de ce flash. Très belle journée à tous sur Radio Présence.
Merci beaucoup à Clémence Roux, étudiante à l'école de journalisme de Toulouse, pour le flash de la mi-journée. On retrouvera bien sûr l'actualité d'ici une petite demi-heure avec la rédaction française de Radio Vatican. Pour l'heure, moi je vous propose de découvrir une librairie. Elle se trouve à Bagnères-de-Bigorre. Elle s'appelle Libre Office. Et c'est grâce à Philippe Noni et Diego Arabal d'Un jour, un livre, un auteur. Et une mission que nous avions enregistrée la saison dernière.
Radio Présence à Argelès-Gazost, 91.9.
Un jour, un livre, un auteur, Philippe Noni, Diego Arabal, Philippe Subercaz.
Un jour, un livre, un auteur. Bonjour Diego Arabal.
Bonjour Philippe.
Début octobre, Diego Arabal, nous étions au salon du livre pyrénéen de Bagnères-de-Bigorre pour un direct.
Je m'en souviens pas.
Mais là, vous avez oublié, hein, qu'est-ce que vous voulez, c'est l'âge ça. Pour un direct mémorable, comme tous les directs effectués donc en ce lieu depuis 2015, et lorsque nous avons été sur place à l'issue de celui-ci, donc nous avons fait un peu le tour des stands et nous avons fait la rencontre d'une librairie qui tenait un stand sur le salon du livre pyrénéen de Bagnères-de-Bigorre. Et puis, surprise, elle est située à Bagnères-de-Bigorre. Donc, il nous semblait incontournable de les inviter pour qu'ils viennent se présenter et qu'ils nous en disent un peu plus sur cette librairie. Bonjour, Johanna et Adrien Levanier.
Bonjour.
Vous êtes les propriétaires de la librairie papeterie Libre Office à Bagnères-de-Bigorre. Présentez-nous un peu tous les deux votre histoire, parce qu'il s'agit d'une reconversion. J'ai lu donc un peu vous concernant, et celle du magasin que vous avez repris, qui est devenue une librairie papeterie. Qui commence de vous deux?
Je commence. Alors c'est Johanna. Avec le je.
Avec le je, d'accord. Johanna, pas Johanna.
Mais c'est pas méchant, je sais qu'elle aurait répondu.
D'accord, ok.
Du coup, effectivement, on a repris le magasin existait déjà, a eu une histoire assez ancienne, puisqu'apparemment ce qu'on a appris, c'est qu'il avait été ouvert en 1940 à Bagnères Place de Strasbourg.
D'accord.
Et il a vécu plusieurs changements de propriétaire jusqu'à aujourd'hui, où là aujourd'hui c'est nous, et ça se trouve dans quelques années, ça sera. On verra plus tard. Du coup, nous, effectivement, c'est une reconversion. On a commencé tous les deux par faire de l'artistique. au niveau de nos études, très littéraires, très plutôt dans ce milieu-là.
Qu'est-ce que vous avez fait comme, comme études, tous les deux ?
Alors, moi, j'ai fait de la philo et du cinéma.
D'accord.
Et madame...
Et moi, j'ai fait l'histoire de l'art.
Ok.
Donc, et ensuite, on s'est, il a fallu qu'on, comment dire, qu'on rentre dans le monde du travail. On a fait totalement autre chose. C'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé avec des entreprises.
Comme souvent.
Ouais, exactement. C'est-à-dire que...
Il y a ce qu'on voudrait et ce qui arrive.
Exactement. Là, en l'occurrence, on est arrivé à ce qui arrive. On y a vécu 15 ans.
Oui.
Et au bout de 15 ans, on a décidé qu'il fallait qu'on revoie tout notre mode de vie. Et en 2022, on a changé de région, de métier. Et on a repris donc cette papeterie, parce qu'en fait, la partie librairie avait été suspendue après le Covid. Et on avait pour projet de la relancer petit à petit. Et la demande étant assez forte, puisque la librairie du centre-ville de Bagnères avait fermé vraiment de manière concomitante à notre arrivée, bah du coup, on s'y est mis beaucoup plus tôt que prévu. Et une chose en enchaînant une autre, on a fini par ouvrir presque tous les rayons qu'on voulait ouvrir avec 3 ans d'avance.
Et les rayons que vous voulez ouvrir, alors présentez-nous un peu la librairie, c'est quel type de rayon vous avez à l'intérieur de la librairie ? Parce que je dis librairie papeterie, mais ça va certainement bien au-delà de ça.
Ouais, parce qu'on a une petite partie, enfin une petite partie, on a une partie beaux-arts aussi, parce qu'il y a une grosse demande aussi sur Bagnères et il y a beaucoup d'artistes sur toute la vallée. Donc c'est vrai qu'on on a eu des demandes assez conséquentes par rapport à ça aussi.
C'est quoi, quel type de demande que vous avez ?
Toute la partie, on va dire, peinture, aquarelle, à peu près toutes les techniques d'art plastique au sens large. Il y a une grosse activité sur place.
Et on adapte beaucoup l'offre en fonction de la demande, en fait. On est très à l'écoute des besoins des artistes.
D'accord.
C'est-à-dire, on est rentré dans une dynamique même où des fois on va aller chercher des produits pour les faire essayer. On va aller, si
c'est-à-dire
jamais ça...
C'est quel type de...
Bon, par exemple, là, il n'y a pas très longtemps, on est parti en Espagne pour essayer de nouvelles aquarelles et de nouvelles techniques. Auprès d'un fournisseur. Donc on a ramené des échantillons et en fait leur objectif c'est de le faire tester aux artistes locaux.
D'accord.
Pour qu'ils nous disent ce qu'ils en pensent, les ressentis. En fonction de, on va dire, de la demande, des besoins, ben on peut mettre le produit en face. Donc là-dessus c'est une espèce de jeu qu'on a avec eux, parce que c'est vrai que c'est des produits qui évoluent très vite, c'est un marché qui est très amusant, parce qu'en fait il y a beaucoup de nouveautés et les réseaux sociaux aident. Ou aide pas, ça dépend. ça dépend des jours. Et en l'occurrence, on essaye d'apporter un peu de, comment dire, de roulement sur les techniques. Là, par exemple, on a testé des nouveaux papiers, on a testé des nouveaux feutres,
des nouvelles gammes d'aquarelles, des nouvelles gammes d'acrylique. On essaye de trouver du qualitatif et de répondre vraiment aux besoins des personnes, en fait. Et après, quand il y a des produits un peu niches de qualité et qui ne sont pas mis en avant sur le marché ou les réseaux sociaux, on essaye de les mettre en avant aussi. Voilà.
Donc ça implique de s'asseoir et de les essayer. Donc,
voilà. Ah d'accord, donc c'est vous aussi qui testez...
Ça nous arrive.
Ça nous... Souvent. C'est comme les livres, en fait, hein, c'est un peu pareil. Ouais. C'est-à-dire que si on veut savoir ce qu'il y a dedans, on est obligé de les lire.
On est bien obligé, effectivement, de les découvrir. Alors, justement, en parlant de livres, on va parler un peu, hein, puisque vous êtes également donc une librairie. Alors, où est-ce que vous êtes situé exactement à Bagnères de Bigorre, pour celles et ceux qui connaîtraient pas, parce que, bon, comme je vous disais, on est diffusé sur toute la région Midi-Pyrénées, l'ancienne région Midi-Pyrénées. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent sur Bagnères. Ça peut être des curistes, ça peut être des touristes, ça peut être des skieurs, etc. Donc c'est quand même une population extrêmement vulgarisée, des gens qui peuvent venir pour les week-ends des arts de la rue, etc. Le salon du livre pyrénéen de Bagnères de Bigorre où on s'est vu, voilà, qu'ils puissent savoir, parce que c'est vrai que vous êtes à l'entrée de Bagnères.
On est excentré, on est à l'entrée de Bagnères, en face de l'ancien parc Soulet, le parc industriel
d'accord.
de Bagnères de Bigorre.
Qui est sur la droite, donc en arrivant depuis Tarbes à...
Voilà, exactement. Mmh. On arrive de Tarbes, on aura le parc Soulet sur la droite et nous serons sur la gauche.
Je t'en vis-à-vis.
Exactement.
Et sur la route de Tarbes, qui pour le coup dessert toutes les zones commerciales, enfin cercle là-dessus.
De Bagnères.
Ouais, voilà. Il y a la route de Toulouse, la route de Tarbes. Voilà. C'était l'une ou l'autre. Là, on est sur celle de Tarbes.
D'accord. Quels sont les horaires d'ouverture ?
Alors, on va ouvrir un peu particulier, parce qu'on a fait partie des librairies pas ouvertes le samedi, mais par contre, on est ouvert le lundi à partir de 15h jusqu'à 18h30. Et après, on est ouvert tous les jours de 9h30 à midi et de 15h à 18h30.
D'accord. Donc, sur des horaires où les gens sont au temps de travail. D'accord.
Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, on a, là, c'est pareil. On a adapté les horaires Bagnères à un marché. énorme qui attire beaucoup de monde.
Le samedi matin.
Et dans la mesure où on est excentré, on s'est rendu compte très vite que les gens étaient au marché, tant mieux.
Ouais, et du coup, et qui venaient pas, d'accord, ok.
Voilà, du coup, on les avait peu. Donc, ce qui fait que par contre, on s'est rendu compte que toute la clientèle professionnelle, parce qu'avec la partie papeterie, mais on va faire tout ce qui est rouleau TPE, papier, tout ce genre de choses, eux, par contre, avaient pas le loisir de venir nous voir parce que eux travaillent le samedi. Donc, leur avoir laissé la page d'ouverture le lundi, finalement, fait que bah, c'est la journée, bon, entre guillemets, professionnelle.
D'accord.
Donc, on a trouvé une bonne dynamique avec ça, et en plus, on fait un peu de livraison de temps en temps. Donc, sur le créneau entre midi et deux, en fait, on en profite pendant que les entreprises sont ouvertes pour aller, de temps en temps, aller faire des livraisons aussi.
Vous travaillez avec les collèges et les lycées pour tout ce qui est commande de livres, oui. Vous savez, pour les...
École primaire, lycée et collège, oui, tout à fait.
Et on travaille également avec la médiathèque.
Oui.
De manière
régulière. De manière régulière.
Et après on va faire du... Comment dire de, on est beaucoup sur l'écoute, comme on disait. C'est-à-dire qu'en fait, là-dessus, si par exemple un parent vient nous voir en disant « Voilà, j'ai besoin de Robinson Crusoe pour mon fils qui est en seconde », on va se dire, bon, il y a Robinson Crusoe au programme. Si on voit le prof, on va pouvoir discuter de la version qui l'intéresse ou de la traduction, parce que des fois, c'est assez intéressant qu'ils aient tous le même, et on va s'arranger pour l'avoir en rayon en quantité suffisante pour les rentrer.
D'accord.
Donc, ça, c'est beaucoup de petites prises de notes et de discussions avec les gens. Exactement.
Bon, faut pas le mettre sur des papiers de bonbons, parce que sinon, si on perd les...
Exactement. Voilà.
Oui.
Ça, là-dessus, on fait pas.
Ça demande effectivement une grosse organisation. Sur la partie librairie, donc on va continuer notre découverte de la librairie, donc Papeterie LibreOffice, donc à Bagnères-de-Bigorre, on rappelle, pour celles et ceux qui prendraient donc l'émission en cours, que vous êtes situé donc à l'entrée de Bagnères-de-Bigorre face à l'ancien parc Soulet. Donc c'est un gros parc industriel, donc on peut pas le manquer. Quand vous passez devant, vous tournez la tête à gauche et vous aurez donc la librairie. Sur la partie librairie, donc vous développez une partie littérature jeunesse, littérature adulte, des romans, des polars. Parlez-nous un peu de ce rayon, parce que c'est celui qui va nous intéresser d'un jour un livre, un auteur.
Ben dans notre cas, déjà, on fait majoritairement de la fiction. C'est-à-dire que si on prend nos rayons, je pense que, je ne vais pas faire des pourcentages, mais je pense qu'on doit être au moins à 90-95% de fiction. On va avoir un petit peu de rayon, on va dire, un peu écologie, un peu sciences sociales, mais en toute petite quantité.
C'est le même principe qu'avec la papeterie. On a découvert qu'il y avait un certain public qui était intéressé par ces questions-là. Et comme on a vu qu'ils étaient intéressés, ben on le développe. Et en fonction de nos connaissances aussi personnelles, donc on va creuser la question et on va chercher des ouvrages qui sont assez importants ou majeurs dans ce domaine-là pour les proposer. Et puis après, les personnes peuvent nous faire des commandes si ce sont des sujets beaucoup plus pointus.
Et on va se servir de leur prisme, quel que soit, on va dire, le style, pour organiser nos veilles littéraires. C'est-à-dire que quand on va avoir le programme des nouveautés des deux ou trois prochains mois, en fait, on va d'un côté choisir les livres en fonction de nos choix, et on va venir rajouter aussi des petites choses. Par exemple, si je sais que telle personne attend avec impatience ou très très fan de tel auteur, je me dis, bon voilà, je vais le prendre pour elle et je l'appellerai si jamais il arrive. Si jamais il y a un auteur qui est très suivi chez nous, qui a programmé une sortie, on va aussi essayer de le mettre en rayon. C'est-à-dire qu'en fait, on va vraiment s'organiser quand on va faire le choix de respecter un peu tout notre cahier des charges qu'on se fixe au fur et à mesure, ou qui inclut les goûts des clients, les nôtres. Et après aussi, on se laisse surprendre parce qu'il arrive, parce que des fois, on voit des choses en littérature qu'on n'avait pas spécialement prévues, et qui sont très intrigantes et qui donnent envie d'aller voir ce qui se passe, quoi. Notamment en jeunesse, où maintenant on a, c'est vraiment pour moi un des rayons qui a le plus évolué. Les illustrés et la jeunesse, c'est... J'ai 20 dernières années, peut-être même plus.
Ça se renouvelle très très vite.
Et maintenant, on peut parler d'un principe que j'appellerais grand public. Parce que en fait, la jeunesse, on a tendance à la compartimenter aux enfants. Mais aujourd'hui, en fait, il y a des auteurs et autrices qui ont la particularité de s'adresser à un public beaucoup plus large. Parce que on va être sur des trames narratives complexes, on va être avec des personnages, on va dire, qui sont denses, riches, avec des belles psychologies, qui sont très accessibles pour les enfants, mais qui vont parallèlement être très intéressants pour les adultes aussi. Et cette littérature-là, on l'aime bien, parce que ça permet aussi, pour certaines personnes qui lisent moins, de raccrocher à la lecture, d'avoir quelque chose d'un peu plus accessible, plus facile. Et c'est du coup des rayons qu'on travaille beaucoup, ce qu'on appellerait, on va dire... moi, j'aime bien le terme grand public.
Oui.
Vous faites aussi du jeune adulte.
Ouais. On fait du jeune adulte, on ne fait pas ce que l'on appelle de romance. Mm-hmm. Il y a des domaines que l'on ne maîtrise absolument pas. Le manga, la romance, on ne sait pas faire, donc on ne fait pas. Mm-hmm. Après, effectivement, on fait à la commande. Mais par contre, il y a effectivement des ouvrages de littérature jeunesse qui sont sur un âge charnière et qui peuvent effectivement parler...
Ado et post-ado.
Voilà, ouais. Et qui vont retraiter de l'histoire, de grandes sagas familiales, voilà.
Et qui peuvent servir aussi à l'entrée en lecture d'adultes qui ont perdu l'habitude de lire, parce que c'est écrit gros, c'est écrit pour un public beaucoup plus jeune, donc c'est souvent plus accessible en termes littéraires.
Tout à fait.
Et il y a aussi un autre public, qui est le public des très très gros lecteurs. Mmh. En fait, je vais pas dire se blasse, parce que c'est pas tout à fait le cas, mais c'est qu'il y a des gens, nous, on a des personnes qui viennent à la boutique qui ont une culture qui est tellement épaisse que de leur côté, ils cherchent la surprise. Mmh. Donc effectivement, des fois, ils voient sur la table des nouveautés, je les ai déjà tous lus. Donc c'est vrai que le fait d'aller amener, on va dire, de la littérature un peu plus niche ou un peu plus particulière, on parlait de Rousse tout à l'heure, ça fait partie de ce genre de choses, on va dire de petits marchepieds pour changer. Et c'est vrai que ça ouvre d'autres horizons, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la littérature, c'est très très vaste et c'est de plus en plus bigarré. C'est-à-dire qu'en fait, avant, il y avait la science-fiction d'un côté, la jeunesse de l'autre, la littérature sérieuse. Maintenant, on peut avoir un roman de littérature sérieuse qui fait appel et qui vient convoquer un peu de science-fiction, qui va être parallèlement peu violent et avec des scènes très accessibles à un jeune public. Donc, ce qui fait que finalement, il n'y a plus vraiment de barrière. Mais par contre, ça nécessite de les lire en entier parce que des fois, il suffit d'une scène pour choquer un public. Et ça, des fois, c'est un peu plus complexe.
Est-ce que vous avez un coup de cœur, là vous parliez de Rousse à Vincennes, est-ce qu'il y a un livre, là, dernièrement, que vous avez eu en librairie, que vous avez porté, que vous souhaiteriez présenter?
C'est un livre qu'on a amené sur le Salon du Livre Pyrénéen, parce qu'en fait cette année le thème c'était la migration, et c'est vrai qu'à Bagnères on a la particularité d'avoir notre confrère auprès de Pyrénées qui fait vraiment de la librairie pyrénéiste, donc à nous on a pris pour le principe de jamais faire de Pyrénées, ce qui fait qu'en fait on s'est posé la question de rajouter des œuvres en plus des auteurs qui étaient présents pour changer un peu et varier un peu. Et c'est vrai qu'on a amené, le thème étant la migration, on a amené Rousse, qui est un tout petit, ce qu'on va dire en anglais, ils appellent ça les short novels, quoi. C'est vraiment un petit roman. Qui doit faire, je sais même pas s'il fait 200 pages, et qui est écrit à travers les yeux d'une petite renarde qui est amenée à migrer pour des raisons de ressources. Donc en fait, on était vraiment dans le thème du salon, et c'est un livre que nous on présente depuis un petit moment, qui vient juste de sortir en poche, qui a un tout petit format et qui a la particularité, vu que c'est vu à travers les yeux d'une renarde, c'est animal.
Donc c'est un livre, c'est une BD,
c'est un roman.
C'est un roman, d'accord.
C'est un tout petit roman, pas très épais, donc il ne fait pas peur.
D'accord, ok.
C'est important aussi.
Ouais. En livre de poche.
En livre de poche, il vient juste de sortir en poche, il a existé en maxi, mais là aujourd'hui il est en poche. Et là où c'est intéressant.
Et l'auteur?
L'auteur, c'est Denis Infante.
D'accord.
Et qui vient juste d'en sortir un second. Et là, pour le coup, Rousse, pour lui, c'est vraiment le livre qu'on a conseillé à beaucoup de gens et qui a permis de recoller certains adultes à la lecture. Et parallèlement, ceux qui étaient fans de poésie aussi, y ont trouvé leur compte, parce que dans sa manière d'aborder le monde, vu qu'il ne parle pas d'humain, il a une approche littéraire qui est très, 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 très particulière. Il va enlever les articles, par exemple, qui vont pas forcément servir. Il va avoir une approche organique, une approche au ras du sol, une approche matérielle, ce qui fait qu'en fait, pour quelqu'un qui lit beaucoup, ça fait une pause. C'est-à-dire que c'est très agréable, ça change un peu, c'est un peu déroutant au début, et finalement, vu que c'est court, on s'y fait très bien, et vu que l'histoire, en plus, est sur une forme de transmission et de migration, on voyage et on grandit. Donc, il remplissait bien le cahier des charges de la reprise en main.
Alors, on rappelle le titre, Rousse,
de Denis Infante.
De Infante, donc en livre de poche, que l'on peut trouver donc à la librairie Papeterie Libre Office, donc à Bagnères-du-Bigorre, on rappelle, à l'entrée de Bagnères-du-Bigorre en venant de Tarbes. Sur la droite, vous avez le parc Soulet, ancien parc industriel, enfin même, il y a toujours des industries.
C'est plus l'entreprise Soulet.
C'est plus l'entreprise Soulet, voilà, on dit le parc Soulet, ça a gardé effectivement le nom. Et juste en face, vous avez la librairie qui est ouverte du lundi
15h jusqu'au vendredi 18h30.
Jusqu'au vendredi 18h30.
Et nous sommes ouverts les samedis durant les fêtes.
Aussi.
Et la rentrée scolaire. Durant les fêtes de fin d'année ?
Durant les fêtes de fin d'année, nous sommes ouverts le samedi ainsi que durant la période scolaire, la rentrée scolaire.
La rentrée scolaire, d'accord. Ok. Donc là, ça veut dire que vous allez être ouvert pour la fin de l'année, période dernière semaine de la semaine de Noël ou les semaines avant?
On va commencer
début la deuxième, décembre.
Ouais, début décembre. On n'a pas encore fixé, mais ça sera le premier ou le deuxième week-end de décembre pour permettre aux gens justement qui n'ont pas forcément le temps d'aller faire les courses de Noël, d'avoir un créneau supplémentaire. C'est ça que des fois...
Donc le matin, ça sera ouvert le matin
le matin,
le matin et l'après-midi, donc on sera ouvert du lundi 15h jusqu'au samedi
18h. 18h, d'accord. Oui. Parce que dans la semaine, c'est 18h30, donc là, ça sera
18h le samedi.
18h le samedi. D'accord. Sur la rentrée littéraire de janvier, vous disiez tout à l'heure, vous regardez ce qui arrive, on va être bientôt sur la rentrée littéraire, alors la petite rentrée littéraire de janvier, mais qui est quand même une rentrée littéraire avec une centaine de livres. Bon, à mettre en perspective avec celle de septembre, hein, où on a à peu près 500 livres. Celle de janvier est un peu moins. Est-ce qu'il y a un ouvrage, éventuellement, sur la rentrée littéraire de janvier déjà, parce que je sais que les livres sont arrivés là, donc dans les librairies.
Pas encore.
Alors, là-dessus, il y a eu une grosse sélection en octobre en vue des fêtes. Donc, ça-là était vraiment... En fait, on a eu la rentrée littéraire qui était très, très dense. Ça nous a fait à peu près plus de 7000 pages de PDF à consulter. La partie octobre, on préparait les fêtes. Là, on est un peu dans le creux, elles sont en train d'arriver.
Là, on est en train de recevoir. Les distributeurs sont en train de nous envoyer les ouvrages de la rentrée littéraire. Et on est en train de les sélectionner.
Okay. Ouais. On en a sélectionné quelques-uns en début de semaine. Mais là, pour l'instant, on va dire le vote est encore secret dans le sens où on n'a pas encore...
On n'a pas encore tout vu. On n'a pas encore tout balayé.
Je pense qu'à mon avis, le gros des dates va être pour fin novembre. Donc, du coup, ça va être le projet de la semaine prochaine.
Une question pour celles et ceux qui nous écoutent, et notamment pour les auteurs et les auteureux. Vous allez organiser des dédicaces, des séances de signature avec les auteurs?
Alors, pour l'instant, on a répondu présent chaque fois qu'on nous l'a proposé. Parce que la médiathèque nous a proposé des signatures, le salon du livre nous a proposé également. Donc ça, effectivement, on va dire oui. En revanche, nous, à notre niveau, pour l'instant, on n'a pas encore franchi le pas. Pour plein de raisons, beaucoup de raisons, notamment d'organisation. C'est vrai que l'air de rien, nous gérons la boutique à deux. Dans la mesure où on a la partie librairie, la partie papeterie, la partie beaux-arts, et aussi on a une petite partie service. En termes de temps, le fait d'organiser une signature
sur place.
En termes de logistique et d'organisation, pour l'instant, on n'a pas encore le rythme. On a démarré, ça fait 3 ans. On espère pouvoir arriver à un stade où on va pouvoir se le permettre, mais pour l'instant, c'est pas encore à l'ordre du jour.
D'accord.
Mais par contre, on répond présent si jamais.
En partenariat pour des signatures en extérieur, à chaque fois on répond présent.
Alors, quand vous dites en extérieur, c'est-à-dire que quand vous organisez avec la médiathèque de Bagnères, c'est vous qui vous déplacez donc avec les livres. D'accord, ok, la médiathèque. Vous êtes pas là. Et là, vous feriez pareil, donc si jamais un auteur ou une auteure vous contactez, ça serait de faire le cas échéant, donc une signature directement au sein de la librairie, ou est-ce que vous. Pourriez-vous dire, on pourrait la délocaliser au sein de la médiathèque parce qu'il y aurait peut-être plus de monde, etc.
On travaille en partenariat avec la médiathèque, donc eux ont leur réseau pour organiser des signatures, mais d'accord. Je pense que je ne voudrais pas m'engager pour eux, mais on peut sortir de la librairie pour faire des signatures.
D'ailleurs, on a même organisé toute la partie, informatique et technique. En fait, depuis le début, on s'est vraiment, vraiment beaucoup engagé pour le fait de pouvoir la mettre n'importe où. C'est-à-dire que dans l'idée, si demain on devait tenir un stand n'importe où, on serait capable de l'organiser.
Le salon du livre pyrénéen, on était totalement autonome.
Oui.
Et en mesure
c'est comme
de
ça
travailler
vous en extérieur.
Un format nomade.
C'est-à-dire que là-dessus, oui, effectivement, ça peut être intéressant de pouvoir sortir des murs. C'est vrai que, je prends un exemple, alors après là, c'est pas du tout une idée, mais si... la partie librairie, il y a un côté pas forcément cosy. Si jamais il y a une signature, moi j'aimerais, si jamais... Alors après, c'est pas forcément dans les tuyaux, mais... pouvoir se sortir si là cette année pour le salon du livre ils ont fait des lectures chez l'habitant par exemple et apparemment ça a été très très apprécié, c'est ce genre de choses à réfléchir, c'est que le fait de sortir
Des murs
et puis d'avoir une sélection plus courte plus concise, plus dans le thème. Ça peut être aussi des fois l'absence de choix, ça peut être reposant. Mmh. Nous, on se rend compte que d'avoir des petits rayons, au final, ça permet aussi au public de resserrer, de pas se perdre, de se dire ah bah voilà, je peux faire toutes les tranches, j'ai le temps. C'est ça que vous rentrez dans certaines librairies, vous dites faudra quelques jours pour faire toutes les tranches. Je vais faire une pause au rayon littérature jeunesse et je vais faire un pique-nique parce qu'après j'ai encore.
C'est vrai que quand il y a 7000 références dans des grandes librairies.
Mais en fait, c'est ça qui est génial, c'est qu'il en faut aussi. C'est-à-dire que c'est génial de se perdre nous-mêmes quand on se balade, on va se perdre aussi dans des grandes librairies.
Oui, mais c'est pas la même forme. C'est-à-dire que. On peut rentrer dans une librairie et se perdre dans la librairie, ou comme on se perdrait dans une bibliothèque comme dans Le Nom de la Rose, où on se perd, on se perd dans tout ça. Mais en même temps, trop de choix fait qu'on peut se dire mais qu'est-ce que je choisis, quoi. Trop de choix tue le choix aussi. Donc ça peut être l'effet inverse.
On est d'accord. Et nous, là-dessus, en termes de... Maintenant, on a une dynamique aussi avec nos clients de discussion. C'est-à-dire que nous, maintenant, on a des clients qui viennent nous dire bon, voilà, je vous fais confiance... Je vais en livre pour ce week-end. Point.
Et là, on a la pression. On n'a pas le droit de se tromper, là.
Donc, du coup, ça, c'est amusant, parce que c'est une relation. C'est-à-dire que là, on est au-delà de la littérature.
Il faut connaître
aussi
la personne.
Exactement. Et alors, des fois, c'est amusant, parce qu'il y en a, on va dire, on connaît leur goût, on sait qu'il y a des thématiques qui leur sont propres, et donc, on va leur dire, oui, là, il y en a un qui vient de sortir, qui pourrait rentrer dans le cahier des charges, puis il y en a d'autres.
On vous le met de côté.
Il y en a d'autres, c'est « surprenez-moi ». Ou « je n'ai pas d'avis sur la question » et du coup, on va proposer deux ou trois titres et ils vont s'orienter là-dessus. Mais c'est qu'on essaye de ne pas aller au-delà pour justement ne pas se perdre dans le choix. Mmh.
Et nous-mêmes, c'est un véritable confort de ne pas avoir beaucoup de choix parce qu'à deux, on n'a pas de chef de rayon sur la jeunesse, sur le policier, sur la littérature française ou étrangère.
Il faut que vous soyez polyvalent.
On est polyvalent et du coup, ça restreint aussi pour nous le nombre de lectures à effectuer. On connaît mieux nos rayons, les sujets, etc., ce qui nous aide à conseiller les gens.
Ouais, c'est-à-dire que si quelqu'un passe la porte en disant « vous avez tel titre », je ne veux pas dire qu'on est capable de tête de dire si oui ou non, mais on a suffisamment de références pour trouver l'information rapidement. Mmh. Alors que, et ça nous va. Parce que là-dessus, pour l'instant, il y a un côté, ça reste à taille humaine. Au final, on n'est pas du tout obligé de taper dans un moteur de recherche, avoir 15 occurrences et se dire lequel je prends parmi tout ça. Donc...
Bon, la librairie Papeterie LibreOffice à Bagnères de Bigorre. Ben, écoutez, on vous réinvitera, parce que je pense que vous aurez certainement à l'avenir des événements à nous présenter. Donc, maintenant que vous connaissez la route,
c'est vrai.
Venir, c'est pas toujours facile la première fois, mais que vous connaissez la route pour venir donc au studio de Radio Présence. Et ben, écoutez, on vous recevra avec grand plaisir, puis on vous reverra certainement l'année prochaine à nouveau au Salon du Livre Pyrénéen, donc de Bagnères de Bigorre. Mmh. On sera, puisqu'on fait un direct chaque année, Philippe Supercase, Diego Arrabal et moi-même. Voilà, mon cher Diego, ce qu'on pouvait dire cette semaine.
Eh bien, on va se dire à la semaine prochaine
et on se dit à la
pour
semaine
ne pas
prochaine.
Perdre les bonnes habitudes.
Exactement, tout à fait. Merci beaucoup à vous.
Merci à vous d'être venus.
Et à bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Un jour, un livre, un auteur. Philippe Noni, Philippe Supercase. L'actualité près de chez vous, c'est aussi sur internet radioprésence.com et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter.
Radio Présence à Luchon, 94 FM.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Chanter et jouer signifie prier. Ce sont les paroles de Léon XIV ce matin lors de l'audience générale.